L'étau islamiste se resserre de plus en plus au Mali. La ville de Gao, dans le nord du pays, est tombée aux mains des islamistes cette semaine. Le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest a pris le dessus sur les membres de la rébellion Touareg du Mouvement National pour la Libération de l'Azawad. Le tout avec l'appui du groupe Ansar Dine qui maintient sa prédominance. Face à eux, l'armée malienne est en pleine décomposition. C'est ce que nous expliquait Gérard Prunier, les spécialistes de géopolitique africaine.
Et il y a une question, je dirais, de terrain. Parce que là, on est dans le désert. Hein. Et c'est vraiment un autre monde. Évidemment, les combattants Touareg, quel que soit leur choix idéologique et le parti auquel ils se rattachent, sont chez eux. Les Noirs du Sud, ils sont pas chez eux. C'est presque comme une guerre coloniale. Aller se battre contre les Touareg dans le désert, c'est pas leur truc. On sait très bien que les Touareg ne vont pas envahir le Sud. Donc, l'Africain noir du Sud, il se dit pourquoi aller me battre là-haut. Et son gouvernement est dans un tel état de faiblesse à l'heure actuelle, depuis le putsch militaire, qu'on peut pas dire que ces pauvres garçons aient beaucoup de cœur au ventre et d'enthousiasme militaire.
Au Mali, les islamistes ne sont pas la seule menace. Il y a aussi la faim. Caritas Internationalis tire la sonnette d'alarme. Car depuis déjà plusieurs mois dans ce pays, mais aussi au Niger, au Tchad ou encore au Burkina Faso, la malnutrition sévit. Dans ces pays, l'année 2012 s'est avérée catastrophique pour les récoltes, à cause notamment de pluies qui sont arrivées trop tardivement ou qui n'ont pas été suffisantes. Certaines zones du Niger affichent un déficit de production agricole de plus de 90%. Une situation dramatique pour les population. Pour nous en parler, Ryan Worms, chargé de communication à la Caritas. Il revenait tout juste d'une mission au Niger, dans la région de Wallam.
Dans la région, on parle de 18 millions de personnes qui vont faire face à une crise alimentaire grave. Nous, notre première préoccupation, ce sont les enfants de moins de 5 ans et leurs mères. J'ai été visiter à Niamey des centres de récupération nutritionnelle qui sont gérés en partie par Caritas. Et là, effectivement, de voir ces gamins de 6 mois, de 1 an, qui arrivent sans force, sans possibilité même pour les cas les plus graves de téter le sein de leur mère ou de s'alimenter par eux-mêmes, ça fait mal au cœur.
Sans eau, sans nourriture et sans soins, c'est la situation que vivent certains Syriens prisonniers des pilonnages intensifs de l'armée syrienne. Notamment à Homs, cette semaine, les habitants de la ville avaient lancé un appel au secours. Ils affirmaient faire l'objet d'un génocide. De son côté, la Croix-Rouge internationale tente de venir en aide à ces populations. Bijan Farnoudi, porte-parole au CICR, nous racontait les difficultés à intervenir dans certains quartiers.
Il faut souligner quand même que nous n'avons pas accès à tous les endroits en Syrie, tels que certains quartiers à Homs en ce moment notamment. Et cela nous pose un grand problème, surtout aux habitants et aux gens dans ces quartiers très touchés. Nous observons des civils qui sont malades ou blessés, souvent pas du tout liés au conflit, qui ont des maladies ou des blessures tout à fait quotidiennes, mais qui sont empêchés d'accéder à des premiers secours, car la situation est trop dangereuse et les gens ont simplement peur de sortir chez eux. Donc là est notre priorité pour l'instant.
En Irak, c'est encore un autre problème que connaissent les populations, celui évidemment des attentats, mais aussi celui concernant le douloureux héritage de la dictature de Saddam Hussein. Le régime aurait fait entre 500 000 et 1 million de morts ou disparus. Pas moins de 270 fosses communes à travers le pays témoignent de ce passé impossible à oublier pour toutes les familles qui attendent encore la dépouille d'un proche ou simplement la vérité. Mais alors, que fait le gouvernement irakien ? Myriam Benrad, politologue et spécialiste de l'Irak aux séries, répondait à cette question.
Les premières initiatives ont été lancées par le gouvernement irakien en coordination avec un certain nombre d'ONG à partir de 2011. Et effectivement, aujourd'hui, on a une multiplication des projets, des appels aux experts pour essayer d'explorer cette question et d'entreprendre effectivement des travaux de fouilles de fosses communes pour retrouver les disparus irakiens et pour essayer d'apporter des réponses aux familles qui, depuis parfois plusieurs décennies, n'ont strictement aucune information concernant leurs parents qui ont disparu.
En Égypte, Mohamed Morsi est officiellement devenu le président. Le candidat des Frères musulmans a prêté serment ce vendredi devant la Haute Cour constitutionnelle au Caire. Les choses se compliquent maintenant pour le nouveau président qui va devoir composer avec l'armée, mais aussi avec les salafistes qui restent très influents dans le pays. Comment ces derniers vont-ils se positionner par rapport au pouvoir? Écoutez la réponse de Bernard Botivo, directeur de recherche à l'IREMAM, l'Institut des recherches et d'études sur le monde arabe et musulman.
Vont être à l'épreuve du pouvoir, c'est-à-dire qu'ils vont devoir faire tourner une économie nationale qui est déjà handicapée par un an et demi de révolution. Donc, par exemple, il y a une ressource stable qui est d'ailleurs très largement contrôlée par l'armée, c'est celle du canal de Suez, mais on sait que le tourisme est handicapé, que d'autres secteurs sont handicapés, donc il y a beaucoup de problèmes économiques qui font que le moment est à la reconstruction. D'ailleurs, les salafistes étaient, en tant que parti politique, ils sont aussi représentés dans les syndicats ouvriers, ils sont aussi sur des revendications sociales et non pas religieuses.